Je viens vous annoncer déjà par avance que, à la suite de ce partage fraternel, de ce temps de prédication, nous aurons encore un temps de prière, mais que je vous expliciterai, puis je vous interpellerai sur cette petite feuille, non pas pour faire des annonces, je laisse ça à l'équipe qui s'en charge, et notamment à Gabriel tout à l'heure, mais pour ce qu'il y a marqué au verso, mais j'y reviendrai. Tout d'abord, et avant de venir à lire les Écritures et d'en partager une parole fraternelle avec vous ce matin, je tenais à rendre compte que ce temps de partage, cette parole partagée, cette méditation, m'a été aussi grandement inspirée d'un article d'une personne que peut-être tous ne connaissent pas ici, mais certains, surtout ils sont assez nombreux ce matin, un certain Jacques Nussbaumer. Alors levez la main ceux qui le connaissent. Voilà, c'est leur professeur, ils sont tous là-haut. Et puis peut-être ceux qui ont l'occasion un petit peu parfois de passer par la fac de Vaux-sur-Seine. Alors moi-même, je ne l'ai pas connu directement en tant que professeur, j'ai eu son prédécesseur. Mais j'aimerais vous inviter, voilà, à ouvrir les Écritures. Nous allons avoir plusieurs passages, hein. Ce ne sera pas qu'un seul. Mais d'aller regarder déjà dans le livre des rois, le premier livre des rois, en son chapitre 12. Et nous allons aller lire deux petits ensembles. Donc 1 Roi, chapitre 12, tout d'abord les versets 1 à 5, et puis un peu plus loin après les versets 15 à 19. Ce sera là juste pour poser un contexte historique qui nous posera peut-être une ouverture par rapport à notre quotidien. Donc 1 Roi, chapitre 12, les versets 1 à 5, puis un peu plus loin les versets 15 à 19. Et je lis dans la traduction du Semeur qui normalement s'affiche ici même. Alors mettons-nous à l'écoute. Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On l'envoya chercher, et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam, et ils lui dirent, « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Roboam leur répondit, « Allez, laissez-moi réfléchir et revenez me retrouver après demain. » Le peuple se retira donc. Je laisse passer la manière dont le roi se fera conseiller, bien que cela ne soit pas très sage, et de venir un petit peu à ce verset 15. Où il est dit « Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. Tant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi « Qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. » Retournons chez nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du Nord, mais tous les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du Nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. Et nous arrêtons là notre lecture pour l'instant. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette partie-là. Je l'ai dit, c'est plus pour l'illustration historique de ce contexte, de ces tensions qui ont partagé un royaume en deux, de ce royaume créé et fondé alors au temps de Saül, mais surtout qui a prospéré au temps de David puis de Salomon, mais toujours associé à la royauté de David. D'ailleurs, c'est bien ainsi qu'on l'entend encore cité dans la bouche de ce peuple révolté. Mais de ce royaume unique, et suite à l'apogée du règne de Salomon, il sera divisé en deux, à tout jamais, suite à ce que nous venons d'entendre. Et d'ailleurs, dans ses propos de toute cette partie de ce peuple qui se révolte, ce sont quand même 10 tribus sur 12, ce qui n'est pas rien, nous y entendons la détresse d'un peuple. Nous y entendons aussi, avant, quand ils viennent voir ce roi Roboam, son espérance avec l'avènement d'un nouveau roi, qui n'est plus Salomon. Mais nous en découvrons, et nous n'avons pas été très loin, mais l'issue tragique qui va se dessiner alors, suite à cela, avec tout à coup et un royaume de Juda, et un royaume dit d'Israël, ou parfois de Samarie, qui est le même royaume, mais qui trouva cette division, enfin, qui trouva pour origine cette division dans la désobéissance du roi Salomon. Cela est compté un tout petit peu en amont, mais je ne cherche pas à le lire avec vous. C'est dans 1 Roi 11, les versets 9 à 13, pour ceux qui aimeraient après aller le lire plus tard. Mais ce récit historique fait écho, quelque peu, à notre actualité. Et rend toujours si vrai, d'ailleurs, cette parole de l'Ecclésiaste qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. » Et surtout la fin que vous connaissez certainement mieux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'état de notre société fait écho au cri des Israélites qui viennent voir Roboam, leur nouveau roi. Et quand nous regardons un petit peu à ce que nous vivons là depuis déjà quelques semaines, si ce n'est quelques mois, avec notamment ce mouvement dit des Gilets jaunes, bien que celui-ci soit hétéroclite, il faut l'avouer, et difficile à cerner, ce mouvement, cette contestation, témoigne d'une réalité profonde. Celle de ce que moi j'appelle ici, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, une société brisée. En effet, je pense parmi nous, nul ou presque n'a échappé depuis ces derniers mois à l'expression de leur colère. Non pas qu'il nous faille entrer dans une analyse politique, cela ne nous intéressera pas, et cela serait surtout bien trop hasardeux, mais il me semble pertinent pour nous, aujourd'hui, dans notre foi, de discerner ce qui se joue, aujourd'hui, dans cette société qui est la nôtre, et que je me suis permis de qualifier par avance de brisée, car elle est notre société, celle dans laquelle, aujourd'hui, nous sommes encore invités à témoigner et à vivre l'Évangile. Et comme vous le rappelez certainement, ce mouvement dit des Gilets jaunes est parti d'un phénomène viral lié à la hausse du prix de l'essence. C'était la petite étincelle qui a fait démarrer la chose. Mais ça n'était pas ça seulement. Hein. Mais à y regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que la grogne liée à ce mouvement, qui n'est pas propre à ceux qui vont manifester dans les rues, il y en a plein qui restent chez eux, mais qui partagent cela, encore certainement, est une contestation aux revendications multiples. Il est difficile d'ailleurs d'entendre exactement toutes leurs revendications. Et elles sont en plus rarement convergentes, tant il y a aussi des courants au sein de tout ça qui sont parfois peu enclins à s'accorder. Mais ensemble, quelque part, s'il y a bien au moins un espèce de dénominateur commun, c'est une colère, bien réelle. Alors parfois qui s'exprime avec trop de violence, ou parfois devient une excuse pour que certains puissent user de violence pour toute autre chose. Mais cette colère réelle est certainement liée aussi à un sentiment de mépris. De mépris lié certainement au rôle que ont joué depuis déjà bien longtemps nos dirigeants, nos autorités, et pas seulement d'ailleurs. Mais d'un sentiment d'être délaissé pour compte pour beaucoup d'entre eux. Et comme le dit alors, ce cher professeur que j'ai cité tout à l'heure, Jacques Nussbaumer, et je le cite ici, « Au-delà des questions purement financières, on perçoit dans ce mouvement un profond sentiment d'injustice, d'une population qui ne pense pas ou plus que les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques, etc., etc., ou même les représentants du peuple, autrement dit les élus, puissent relayer la volonté du peuple et agir vraiment en sa faveur. Comme si toutes ces personnes-là n'étaient plus du tout entendues, plus personne n'était là pour œuvrer pour eux. Bon. Et pour aller plus loin et comprendre l'enjeu, du monde dans lequel nous sommes invités, nous, encore aujourd'hui, à témoigner. Un article récent montre que justement cette fracture n'était pas vraiment seulement territoriale. Vous savez, il y a la France des villes et puis la France des campagnes. Bon, je ne suis pas sûr que c'était exactement dit comme ça, il fut un temps, mais décision un peu trop facile. La fracture n'est pas vraiment territoriale entre la France rurale et la France des métropoles. Le mal est bien plus grand, car il s'agit plutôt de multiples fractures qui touchent différemment selon les secteurs d'activité, les catégories sociales, et à différents niveaux. Autrement dit, nous partageons un même territoire, mais nous n'habitons pas le même monde. Et c'est là que ça devient inquiétant. Ou comme le dit encore ce cher professeur, nous nous croisons dans la rue, Mais nos histoires, nos vécus et nos grilles d'interprétation du monde divergent à 180 degrés. Et quand j'entends ça, je me dis, nous, qui portons l'Évangile, qui portons l'espérance, comment pouvons-nous être témoins auprès de personnes, peut-être déjà en notre sein, mais aussi au dehors, voient les choses complètement d'une manière totalement opposée, ou d'une manière si distante et profondément différente que nous ne sommes même pas capables peut-être de nous comprendre quand nous nous parlons. Ça pose question, ça doit nous interroger. Il n'est donc pas étonnant que cette grande variété de ressentiments présents aujourd'hui et qui pouvaient se faire entendre certainement hier encore, nourrissent bien sûr des haines, des rancœurs dont certains s'emparent pour soit laisser déferler leur violence, soit crier leur propagande nauséabonde, parfois teintée d'extrémisme de tous bords. Autrement dit, ce qui se vit aujourd'hui dans notre société montre à quel point celle-ci, celle dans laquelle nous vivons et dont Dieu nous veut solidaires, est fragmentée, est brisée, est désespérée. Aussi, quand le Seigneur lui-même, et tout à l'heure, je crois que tu as été cité cela, je gardais ma fille dans la pouponnière, donc j'ai essayé d'écouter et de suivre, mais tu as été regardé en Jean 17, je crois, voilà. Ou 20, ah oui, 21, mais moi je pensais à autre chose, c'est vrai. Mais je viens apprendre juste un tout petit passage de cette prière du Seigneur en Jean 17. Celle qu'il a eue pour ses disciples, peu avant que lui-même n'aille mourir, mais celle qu'il a encore pour nous aujourd'hui. Et c'est une parole qui pour moi m'interpelle là, toujours, aujourd'hui. Quand il dit « Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. » Nous ne pouvons ici, dans ces quelques mots, qu'entendre l'appel du Seigneur pour nous à être solidaires de ce monde. Car il nous veut présents aujourd'hui. Il n'a pas souhaité nous retirer. Ça aurait été tellement plus sympa et confortable pour nous. On serait dans des petits nuages roses, à se bercer de plein de beaux champs, et tout irait bien pour nous. Et le monde, quelque part, serait promis à cette désolation. Mais nous y sommes, parce que Dieu veut que nous y soyons, aujourd'hui. Et alors, mon interrogation pour ce matin est celle-ci. Comment y parvenir? Comment parvenir à être solidaire quand ce monde se fracture de toutes parts? Comment être solidaire quand la réalité du quotidien se fait plus distante entre les uns et les autres, au point de vivre en parfait étranger au sein d'un même quartier, au sein d'une même ville et surtout au sein d'une même société? Voilà l'interrogation que je nous soumets, car pour moi, elle touche du doigt et nous interroge quant à la manière dont nous pouvons vivre l'Évangile au concret, dont nous pouvons le témoigner. Avec l'interrogation par derrière, mais comment l'Église, en tant que telle, dans la mission que Dieu lui confie, peut-elle se montrer solidaire de ce monde ? Alors, je vous propose des pistes. Comme vous me connaissez pour certains, je ne vais pas vous proposer les meilleures pistes au début. Mais est-ce qu'être solidaire de cette société déchirée et brisée doit nous conduire ou nous pousser à faire notre ce cri de désespoir et à prendre les drapeaux? Non, pas les drapeaux, là ce sont plutôt des gilets jaunes, c'est la mode. Dommage pour les drapeaux, moi j'aime bien ça, mais bon, je plaisante. Hein. Mais est-ce qu'être solidaire de cette société doit nous conduire à entrer dans une même colère que celle que nous pouvons entendre samedi après samedi? Ou alors pour ceux qui sont fans sur les réseaux sociaux, où je pense qu'il y aurait beaucoup à filtrer là aussi. A priori non. Alors à l'inverse, posons-nous la question autrement, essayons de trouver d'autres pistes. Notre attachement au Seigneur ne devrait-il pas nous conduire à rester figés dans un rôle d'observateur? Où nous nous contenterions, de poser un regard à la fois extérieur, certainement un peu froid, sur ce qu'il serait bon de faire et de ne pas faire, et de se poser en juge de la situation. Voyez à quel point les hommes politiques ont failli, voyez à quel point les gilets jaunes se trompent et s'égarent parce qu'ils partent dans la violence. Bon, j'en sais rien. Hein. Et nous serions là à bien voir les choses. Notre appel à rechercher la justice de Dieu et le bien pour notre prochain tout en demeurant dans le respect de nos autorités. C'est toute cette tension dans laquelle nous vivons, hein, en tant que disciples du Seigneur. Ne fait pas pour autant de nous des arbitres de notre société. Nous ne sommes pas là pour distribuer des points, bons ou mauvais d'ailleurs. Bien au contraire. Alors que faire si nous ne pouvons pas nous emparer des bannières et aller crier et tout casser? Ça pourrait faire du bien parfois d'aller tout casser. Je pense que c'est peut-être aussi hein, ce qui se passe chez certains, ça les vide, ça leur fait du bien. Bon, malheureusement, c'est totalement inutile et pire encore, mais nous ne sommes pas là aussi pour juger ce qui se passe et d'avoir une forme d'arrogance peut-être. Car n'en oublions pas que porter l'Évangile dans ce monde signifie entre autres accueillir les naufragés de ce monde. D'accueillir les brisés, les rescapés que ce monde déchu broie inlassablement. Et entendez-le, au temps de Roboam, voire au temps de Salomon, c'était déjà là. Ou comme le dit, il le dit parfois d'une manière bien meilleure que moi, essayez de l'entendre, ce cher monsieur Nussbaumer, l'Église est aussi le réceptacle des brisures de ce monde. Une très jolie phrase, je trouve. N'est-ce pas là, effectivement, l'une des missions, au sein de la mission que Dieu nous confie? Et comme nous en avions eu l'occasion de le partager lors d'un culte précédent, notre témoignage chrétien se conjugue dans la double affirmation que l'Église n'est pas de ce monde, tout en étant dans le monde. Ce que j'appelle être solidaire ce matin encore. C'est-à-dire qu'elle partage les défis quotidiens avec le reste de l'humanité et demeure d'ailleurs influencée dans ses propres discours par ce qui l'entoure. Et quand je dis influencée, ce n'est pas forcément en fonctionnant de la même manière, c'est parfois en allant à l'encontre. Dans cette espèce de double regard que je vous ai posé, qui n'était pas juste d'ailleurs. Autrement dit, l'Église se doit d'être lucide quant à sa solidarité au monde. Aussi, soyons attentifs à une première chose. Soyons attentifs à la qualité de notre amour fraternel. Car il serait illusoire d'imaginer qu'en notre sein, nous, famille de Dieu, nous, peuple racheté, que nous ne soyons pas aussi affectés par ces fractures. Très certainement, l'Église accueille, alors quand je dis l'Église, prenez-la dans toute son universalité, mais regardons aussi à nous. L'Église accueille déjà des personnes, des frères ou des sœurs souffrant certainement de ces maux qui broient les hommes et les femmes de ce monde. En lien avec ce mépris et tout ce que l'on peut évoquer là. Et c'est en cela que premièrement nous devons être solidaires de ce monde. Car nous devons souffrir avec ceux qui souffrent déjà en notre sein. Nous devons pouvoir les porter et nous ne pouvons échapper aux douleurs d'aujourd'hui, des douleurs symptômes du péché présent dans ce monde. Nous n'allons pas déjà regarder en disant « les gilets jaunes, c'est le monde » et nous ne sommes pas de cela. Nous partageons certes maintenant ces souffrances en raison de ceux qui parmi nous sont peut-être aussi à vivre cela et aimeraient crier aussi cela. Dans un monde qui est en désespérance, ou pour le dire encore autrement, qui s'accroche à de faux espoirs, et depuis tout le temps. Rappelons-nous ce matin que le Fils de Dieu, lui, s'est incarné en Jésus pour habiter ce monde. Et je dis bien pour habiter ce monde, non pas pour y construire une petite maison et y faire sa petite vie, mais justement pour partager notre quotidien. Et regardez le nombre de personnes qu'il a croisées sur son chemin. Alors, il ne portait pas des gilets jaunes, bien entendu. Mais n'était-il pas brisé, abîmé, cabossé, tout ce que vous voulez, pour beaucoup? Je ne vais pas vous citer son nom, je pense que vous le retrouvez vous-même, mais rappelez-vous, il y avait un petit bonhomme qui avait dû monter dans... Alors, je ne sais plus si c'était un sycomore, mais un petit arbre. Il n'était pas bien grand, il avait du mal à voir Jésus passer. Et ce qu'il était faisait de lui un rejeté, de par sa fonction. Il n'était pas pauvre, hein. Il n'était pas forcément dans la dèche, pour le dire très simplement. Mais pour autant, c'était un homme brisé, d'une certaine manière. Et bizarrement, alors qu'il était derrière et qu'il se faisait quand même presque discret, bon, monter dans un arbre n'est pas forcément très discret, mais Jésus l'a vu et a souhaité passer du temps avec lui, en allant chez lui. Ce qui a d'ailleurs un peu choqué, certainement. Mais voyez qui était Jésus. Il est venu, il s'est incarné pour habiter ce monde, c'est-à-dire se faire solidaire de notre humanité, se faire solidaire de cette humanité brisée. Et n'est-ce pas ce que Paul d'ailleurs affirme quand il interpelle les chrétiens d'Éphèse par ces mots ? Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, à vous les plus lointains comme aux plus proches. Et cela se trouve en Éphésiens 2, versets 14 à 17, pour ceux qui aiment bien tout noter. Et pour ce même monde que le peuple racheté a reçu, c'est pour ce même monde que le peuple racheté, c'est-à-dire nous, avons reçu la mission de témoigner de cet amour qui vient d'en haut et qui rassasie notre existence au sein d'un monde qui demeure brisé. Et j'aimerais m'arrêter sur une des béatitudes. Ce n'est pas forcément ma préférée, elles sont toutes belles et magnifiques, mais celle-là, je l'aime bien quand même. Alors je vous la propose ce matin, je vous la lis, mais il est dit ainsi, alors le début vous l'imaginez, bienheureux. Alors quelle est la suite ? Bienheureux ceux qui procurent la paix. Et là je pourrais presque vous laisser finir pour plusieurs, mais bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Une belle parole pour nous aujourd'hui, à méditer, que je vous laisse là encore. Mais n'est-ce pas là une exhortation du Seigneur qu'il nous faut réentendre encore aujourd'hui ? Redécouvrir. N'y a-t-il pas là pertinence à la laisser résonner vraiment dans notre âme, pour que le Seigneur nous utilise plus encore aujourd'hui et demain, maintenant, là où je vis, au cœur de cette société, où il y a des personnes qui vivent brisées, qu'ils soient mon frère ou ma sœur, qu'ils ne le soient pas encore, mais qui ont besoin de cette guérison que seul, justement, le Seigneur peut apporter dans toute vie. Alors comment nous y prendre ? La tâche est ardue. Mais comme évoqué auparavant, notre mission n'est pas de venir avec une parole toute préparée par avance et de l'offrir au monde avec distance et arrogance. Je ne pense pas que là il nous faille penser à leur balancer des traités ou des tracts. Quelqu'un qui est brisé n'a pas besoin de cela, je ne le crois pas. Bien au contraire, nous ne pouvons que venir humblement, et je dis bien humblement, en sachant que nous sommes à l'image de cette humanité fracturée, brisée, essoufflée. Et nous avons tous eu besoin de guérison. Et peut-être aujourd'hui encore, nous avons besoin de guérison. Oui, nous ne pouvons que venir humblement, car c'est en Christ que se trouve la réponse et l'espérance. Ce n'est pas nous qui pouvons apporter les solutions, mais nous pouvons en être témoins. Et n'en oublions pas que c'est en Jésus seul que nos propres blessures et fractures ont trouvé justement ce chemin du rétablissement par la guérison qu'il a opéré et qu'il a continué d'opérer en nous. Aussi, et c'est la dernière fois que je le cite, comme le dit ce cher professeur, l'ouverture d'un espace où nos propres brisements peuvent être posés devant le Christ ensemble dans ce corps qu'est l'Église, et peut-être un lieu d'où peut jaillir une espérance qui fera signe aussi dans ce monde brisé. Voyez, là où aujourd'hui tant de classes dirigeantes, de personnes qui avaient des possibilités du pouvoir et essayaient de bien faire, certainement, n'ont plus la confiance. Je ne dis pas que l'Église doit prendre le pouvoir, surtout pas. Mais que l'Église, qui parfois a peut-être laissé le champ justement à d'autres pour prendre soin, pour aider, pour soutenir, doit entendre aussi cet appel. Notre vocation demeure et demeurera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'espérance qu'est Christ lui-même nous amène et nous a amenés, je l'espère, à redéfinir nos regards sur ce qui nous importe, sur ce qui nous conduit, sur ce qui devient moteur dans notre existence. Et nous ne regardons plus l'avenir avec désespérance, bien qu'il y aurait matière à le faire. Il n'y a pas grand-chose de réjouissant dans ce monde, quand on regarde à l'avenir. De ce qui semble être l'avenir, en tout cas. Nous connaissons, nous, l'avenir, même si nous n'avons pas date et échéance sur cet avenir. Mais nous savons qu'il arrive. Aussi, nous ne pouvons venir qu'avec le désir sincère d'écouter, de témoigner de cette transformation qui a déjà commencé au plus profond de notre cœur. Parce que là où aujourd'hui nous pouvons être témoins, là où certainement le Seigneur nous interpelle et nous invite à être ses disciples, c'est en étant les porteurs de la paix de Dieu. Non pas en disant « ne vous inquiétez pas, tous seront riches demain », ce serait illusion de croire cela et de vouloir le dire, mais la paix de Dieu est d'un tout autre ordre, parce que c'est elle qui apporte aussi cette guérison. Oui, entendons cet appel, celui que nous avons pu entendre dans cette parole des Béatitudes, « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Oui, soyons les porteurs de paix pour ce monde en raison de la mission que le Christ nous a confiée. » Non pas seulement en tant qu'individu, mais plus encore en tant que peuple. Aussi, si nous nous disons « mais nous voulons faire de l'évangélisation », le champ est ouvert. Et c'est en tant que disciples porteurs de cette paix que nous pouvons aller vers les autres. Ou parfois, non pas forcément aller vers eux, mais nous mettre à leur écoute. Aussi, j'aimerais vous inviter, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, de prendre maintenant le temps de prier. D'avoir un temps de prière où plusieurs parmi nous pourront prier, que notre prière soit pour nous un encouragement à entendre aussi l'exhortation du Seigneur à être porteur de cette paix. Que nous n'ayons pas juste à prier en disant « Seigneur, fais », mais « Seigneur, transforme-nous aussi, pour que nous soyons là où tu nous désires. » Et dans cette invitation à ce temps de prière, j'ai su recenser quelques sujets. Alors je vous invite vraiment maintenant à prendre ce feuillet. Et d'ailleurs, quand vous allez le prendre, après, pensez à aller le mettre dans votre sac, dans votre poche, pour le ramener chez vous, que ce ne soit pas juste une prière d'un instant, mais une prière tout au long de cette semaine, et peut-être plus encore si vous avez à cœur de continuer de prier pour cela. Ces sujets, je vais les lire, vous les avez là, et une fois que j'ai fini de les lire, que voilà, tous nous puissions nous recueillir dans la prière et prendre le sujet que le Seigneur me met à cœur, et de le remettre entre ses mains. Quatre grands thèmes, quatre sujets d'intercession. Le premier, pour nos autorités, pour le gouvernement, si vous préférez. Et tel que je l'ai formé, c'est « Prions pour que Dieu inspire les personnes qui nous gouvernent, afin que les décisions sages, justes et apaisantes soient prises. » Elles sont annoncées comme venant, mais nous ne les connaissons pas. Donc espérons que Dieu puisse aussi agir là, et qu'il puisse quelque part entendre sa sagesse. Autre sujet, autre thème, pour ceux qui essayent de faire régner la paix, d'une certaine manière, les forces de l'ordre. Justement, il est important aussi de prier pour eux, pour les gendarmes et policiers qui font face à la violence de certains manifestants, notamment. De prier pour qu'ils soient gardés physiquement et moralement, qu'ils restent mesurés et professionnels dans leur attitude, car ils veillent à cela. Encore un troisième sujet pour les manifestations. Apparemment, il va y en avoir encore. Prions pour que la colère de ceux-là soit apaisée par l'Esprit de Dieu. Prions que les cortèges ne soient pas le théâtre à nouveau de casseurs opportunistes. Et nous avons vu il y a tout juste une semaine à quel point ça peut être dramatique. Et dernier sujet, pour les manifestants. Prions pour que les personnes démunies, en précarité, révoltées contre ce qu'elles estiment être des décisions politiques injustes. Et encore, prions que cette amertume soit une occasion de chercher la sérénité. Je pourrais dire là encore la paix dans une autre direction, autrement dit de découvrir Jésus et d'accepter le salut qu'il propose à quiconque. Ces sujets, juste je finis, je les ai trouvés dans cette lettre que le CNEF, le Comité National des Évangéliques de France, avait émis en début décembre dernier. Et ils sont toujours d'actualité. Donc voilà, je m'arrête là, mais que nous puissions tous nous incliner, et parmi ces sujets, s'il y en a un que je veux remettre au Seigneur, faites-le à voix haute comme nous l'avons fait tout à l'heure et que chacun puisse prier. Voilà, nous nous donnons un certain temps. Prions maintenant.
Thank you. soit, qu'on reste à la brèche, Seigneur, qu'on soit pas juste des observateurs, mais que nous soyons à part ton esprit des acteurs, Seigneur, pour que ton règne, Seigneur, soit établi, Seigneur, pour que ta paix, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour ce temps, Seigneur, où il y a des révoltes avec les gilets jaunes, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que là où il y a la destruction, là où il y a des blessures, là où il y a la haine, la vertu, Seigneur, c'est que ton esprit n'y est pas, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, que tu puisses apaiser le cœur, Seigneur. Que tu puisses donner, Seigneur, guérir, Seigneur. Guérir là où il y a l'amertume, là où il n'y a pas d'espérance, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, apporte l'espérance, Seigneur. Qu'au milieu, Seigneur, de ce désastre, de ce trouble, au milieu de ce désespoir, au Père de gloire, que tu étends ta main, Seigneur, que tu étends ta main, que les cieux s'ouvrent, Père de gloire, et que tu puisses te manifester, que ton règne vienne, Seigneur, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, que nos voix s'élèvent aussi, Seigneur, et que nous puissions être, Seigneur, des canaux par lesquels tu vas passer, des canaux par lesquels tu vas manifester ta grâce, Père de gloire, pour pouvoir être là, Seigneur, là où nous avons besoin d'être là, d'être la lumière, d'être le sel, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, aussi à nous de ne pas être découragés, de ne pas être abattus, Seigneur, mais d'être fortifiés par cette parole que nous avons entendue, Seigneur, et d'être portés par ta parole et de porter l'esprit en cette saison, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus.
Te remettre ton Église afin que tu puisses encore nous façonner, nous utiliser comme disciples et porteurs de ta paix dans ce monde et dans cette société. Seigneur, montre-nous et façonne-nous afin que nous puissions, par ta sagesse, être attentifs déjà à ce qui se passe peut-être encore aujourd'hui en notre sein, parmi ceux aujourd'hui qui aussi sont brisés par ce qui se déroule dans ce monde injuste et cruel. Seigneur, que nous demeurions aussi attentifs autour de nous à ce monde pour justement savoir accueillir là aussi les brisures qu'elle renferme. Seigneur, oui, donne-nous vraiment de savoir être à l'écoute, attentif, de savoir justement communiquer ton amour et ta paix pour ceux qui la recherchent. Aussi, Seigneur, utilise ton Église aujourd'hui encore. Donne-nous un cœur porté vers les autres. Seigneur, oui, que dans cette situation qui demeure compliquée, dans cette situation qui, de par sa violence, peut certainement nous effrayer, aide-nous justement à savoir témoigner de toi, à savoir faire rayonner ton amour, ici même, là où tu nous places, que ce soit peut-être dans notre rue, dans notre immeuble, à notre travail, dans les voies de métro ou dans tous les endroits où nous passons et où nous pouvons croiser certains de ceux-là, peut-être même certains de ceux qui n'ont même plus la force de s'exprimer aujourd'hui. Seigneur, montre-nous encore comment tu désires que nous soyons tes disciples plus encore aujourd'hui dans ce monde où tu nous as placés. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, je ne sais pas si je laisse la place à Catherine ou tout de suite à Gabrielle.